Nous sommes dévastés par cette disparition tragique et prématurée, a réagi le groupe de Dave Grohl, l'ex-batteur de Nirvana.
Radio G 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner des témoignages.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible. Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Elisabeth Gardaz est née au Maroc, où elle a passé son enfance. Elle a trouvé à Paris, dans l'étude de la langue russe, dans la découverte inépuisable des langues, littérature et culture, et dans l'amitié des œuvres d'art, une de ses demeures, un lieu de rencontre. Elle a enseigné longtemps, pour son plus grand bonheur, la littérature comparée et écrit, en marge, sur l'œuvre d'écrivains. Psychanalyste, Elisabeth Gardaz, par sa pratique, contribue beaucoup à l'accompagnement d'étrangers exilés. Nous vous proposons aujourd'hui un entretien avec Elisabeth Gardaz, qui me reçoit dans sa maison, et la lecture de poèmes extraits de son recueil « Le cycle des palmiers » paru à L'Aile Édition en septembre 2021. Quelques lignes de la présentation que je viens de vous lire figurent dans cet ouvrage.
Elisabeth, bonjour.
Bonjour, Ria.
Je voudrais commencer par parler de ta pratique de la psychanalyse, qui est centrée sur l'accueil et l'accompagnement d'étrangers contraints à l'exil. La psychanalyse qui est le soin par le mot avant le mouvement. Et j'ai une première question. Pourquoi l'exil ?
Alors, c'est une question tellement immense que je vais y répondre de façon très très fragmentaire. Ce n'est pas l'exil qui a été la raison de mon choix. Si on peut dire qu'il y a eu choix, c'est pas évident. C'est une question de langue. Il s'est trouvé que parmi les personnes qui ont été contraintes de partir, il y a eu pour Angers, ceux qui sont arrivés ici, des gens qui parlaient le russe. C'était en réalité des gens du Caucase, des Tchétchènes. Et c'est donc au titre que je parlais la langue russe que j'ai accepté d'abord de rencontrer ces personnes dans le cadre de l'accueil que mettait en place la municipalité, et donc en qualité d'interprète en réalité. Mmh. Et c'est devant les situations rencontrées qu'il m'a semblé que je pouvais proposer autre chose qu'était d'écouter ces personnes. Et c'est ainsi que d'une pratique de langue qui me permettait d'entendre la langue de l'autre, je suis allé en quelque sorte prêter attention à la parole subjective de ces personnes en particulière souffrance. Voilà l'origine. Que cela rejoigne des éléments de mon histoire personnelle, c'est une évidence, mais ce n'est pas là l'objet d'un travail à faire ici. Voilà.
Et est-ce qu'il y a un rapport avec le cycle des palmiers ? Parce que le titre du recueil, le cycle des palmiers, nous parle, semble-t-il, de la vie, de son égrènement, de son écoulement, si je peux l'exprimer ainsi. Et aussi, le palmier fait penser au pays méditerranéen.
Chaque question pose question. À vérité, je n'y ai jamais pensé s'il y a un lien ou pas. Dans le recueil, en fait, le titre de cycle des palmiers est venu un peu fortuitement. Ce n'est pas venu du tout comme un cycle, mais c'est venu comme une suite de textes qui se sont égrenés dans le temps, un peu intensifiés à certains moments, et qui probablement répondaient à cette émotion très singulière que j'ai devant cet arbre. Mon enfance au Maroc n'était pas près des palmiers, c'était plutôt les mimosas et les eucalyptus, voire les chênes verts. Et donc, le palmier, il parle de pays méditerranéen, certes, et sans doute si j'avais essayé de comprendre, et peut-être que ce que petit à petit j'ai compris partiellement à mesure que j'écrivais, c'est à quel point le palmier était, et quand tu dis méditerranéen, tu dis juste, il était sur les deux rives. Il est apparu comme un arbre qui était comme un signal, une présence à travers des espaces à la fois séparés et reliés. Il avait peut-être fonction de relier quelque chose. Voilà, mais je ne vais pas entreprendre la psychanalyse de mes propres textes. C'est pas ce que tu me demandes. Et ce pas, non. Ça ne se fait pas de toute façon. Ça ne s'arrête pas.
L'image du palmier, dans son ensemble, fait penser à une poésie de la verticalité et de l'horizontalité par sa forme. Dans le paysage du bord de mer, par exemple. Et le palmier aussi a un goût sucré de par ses dattes. On dit d'ailleurs que la datte est un fruit miraculeux par son pouvoir énergisant et que les gens du désert sont forts et résistants aux maladies. Ça me fait penser au premier poème, trois cartes postales.
Oui, alors c'est pas un terme que j'utilise. Je crois même que le mot vertical n'existe pas dans le recueil. Et je ne pense pas en termes de verticalité, mais plutôt de relation, de dialogue avec l'inconnu. Je veux dire que même dans les cartes postales, par exemple, c'est à la fois la dimension visuelle, par exemple la projection du palmier et son ombre qui est tellement belle sur le sol. Et j'ai souvenir du nombre de palmiers que j'ai dû photographier même aux États-Unis, à Charleston, c'est comme cette image qui me revient. Autrement dit, je suis probablement très visuelle, et donc la vision est importante, et d'autre part, ce qui échappe à la vision et qui fonde en réalité peut-être la vision même, et par exemple, tu parlais des cartes postales, dans cartes postales, c'est cette espèce de transfert du monde dans un dans ses limites, dans ses confins. Et ici, des confins qui sont effectivement, on peut dire, verticaux, c'est le mouvement de se hisser vers quelque chose. Mm-hmm. Voilà, c'est un peu confus ce que je dis là, mais peut-être je voudrais dire aussi par rapport à ça que autant que la direction, c'est le mouvement, c'est-à-dire que les palmiers, pour moi, bruissent, murmurent, que c'est une présence très animée. C'est en ce sens probablement que la verticalité m'importe moins que la vie qui traverse les palmiers. Polynésie n'ont que faire de l'horizon, ignorant la mer, étrangers à la végétation, ils vont droit au ciel, deviser avec les nuages. Leurs tiges très fines ont hissé là-haut le paysage. En Birmanie, ils sont près de leurs ombres comme des sculptures posées sur le rivage. éventail dans le soleil, palmiers de par-ci au bord de l'eau, presque des roues de paon. Un dessin de Kipling. Dans un vaste jardin, tout au long d'une allée, ils font une double rangée de réverbères.
Le palmier, du fait de sa tige longue et haute, qui peut atteindre 60 mètres, nous fait regarder le ciel, si on est à son pied, le ciel dans son immensité et son vide. Et je rajouterais que le vide peut aussi être plénitude.
Toutes ces catégories me gênent un tout petit peu parce que ça nous transfère d'une sorte du côté d'une réflexion un peu philosophique. Probablement la sensation pour moi est première, la sensation, la surprise devant l'émergence du phénomène, le moment où elle vient, où l'objet vient frapper mon regard, ou moi être frappé par le regard, par l'objet. Je ne me pose pas ces questions, je ne pose pas, en tout cas pas du tout dans l'ordre de l'écriture. C'est des questions que je peux rencontrer ailleurs, mais qui n'interfèrent pas ici. Et mais que le lecteur soit emmené dans cette direction ne m'étonne pas tout à fait. Et c'est vrai que, puisque tu parles de cette impression que tu as eue en t'imaginant au pied du palmier, c'est vrai que pour ce qui est, par exemple, des grappes de fruits, c'est vrai que je les ai découvertes, je les ai regardées longuement, elles me sont apparues précisément, moi, en position de petit piéton par terre, sous le sol, et en étant obligé de lever la tête. C'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement de découverte de quelque chose, effectivement, qui est très haut. Mais c'est plus hauteur comme une chose peu accessible, mais offerte là tout à coup.
Mm-hmm.
Offerte là tout à coup.
Oui. Dans ton jardin, il y a un palmier. Connais-tu son histoire? A-t-il voyagé?
Alors, d'abord, je vais faire une petite correction. Il n'est pas dans mon jardin, mais il est dans le jardin de mes voisins.
Ah,
et c'est très bien. Et il en est même venu un deuxième. Ils sont deux palmiers, mes voisins.
Ah,
il est régulièrement taillé, ce qui lui permet de continuer à grandir et lui conserve sa beauté aussi. Donc je ne connais pas son histoire, je ne sais pas comment il est venu là, mais il a une fonction très précise dans mon quotidien, parce qu'il y a, si on regarde bien le jardin, le jardinet, et pas le mien seulement, mais surtout celui des voisins, des différents voisins, il y a plusieurs arbres, il y a les palmiers, il y a les deux palmiers à gauche, il y a un immense sapin qui essaye d'égaler la hauteur du lycée Chevreul qui jouxte là. Il y a un bouleau non moins immense qui essaie de rattraper le sapin. Et il y a un mimosa, tout ça chez les voisins. Et c'est un dialogue entre ces différents arbres qui constitue mon quotidien. Donc je vis la croissance de chacun, qui fleurit, qui grandit, qui veut égaler l'autre. Voilà, donc il y a une espèce de présence simultanée de ces arbres qui appartiennent à des mondes si différents. J'ai des liens étroits avec la Russie, et le bouleau, c'est l'arbre de la Russie. Les sapins, c'est l'univers suisse avec lequel j'ai aussi des relations étroites. Et le palmier, c'est effectivement le Maroc de mon enfance en partie, c'est des pays méditerranéens. Donc j'ai dans l'espace des jardins un concentré de mes origines, on pourrait dire.
C'est très beau. Merci. Le palmier aussi, il me fait penser aussi au soleil, qui, à lui seul, dans certaines œuvres cinématographiques ou littéraires ou artistiques, peut être un personnage à lui seul. Je pense par exemple à L'étranger d'Albert Camus et à la scène de la plage. Eh bien, Quand on parle d'Alger la Blanche, on parle plutôt de la lumière que dégage la ville. Dans ton recueil, il y a du soleil?
Sûrement, je pense qu'il y a du soleil, mais il y a aussi, et je crois, il n'est pas directement là. Ce n'est pas un soleil écrasant, c'est un soleil, j'ai presque envie de dire coloré. Il est dans la flore, dans la vivacité des gens, mais en réalité, il est surtout en étroite, on pourrait presque dire dialogue, en échange étroit avec l'ombre. Et précisément parce que c'est un des premiers textes que j'ai écrit, et j'ai été moi-même étonnée à quel point, pour moi, tout ce qui est tressé, souvent à partir des tiges de palme, justement, tout ce qui est tressé pour recevoir la lumière, mais en même temps qu'elle ne soit pas écrasante, pour conserver la fraîcheur, l'agrément de circuler. Pourquoi ? Peut-être que mon Maroc, à moi, c'est ça. C'est un pays où il y a du soleil, mais qui n'écrase pas. Mm-hmm. Qui n'écrase pas. Et peut-être que le palmier, il a cette fonction d'être à la fois signe de soleil et pourvoyeur d'ombre.
La simplicité de l'instant, ce poème qui parle du jardin du Mail, de rues avec leurs noms qui nous sont familiers, nous, Angevins, de notre cinéma Les 400 coups, rue Jeanne Moreau, parce qu'on a donné son nom à sa rue, parce que Jeanne Moreau aimait beaucoup venir à Angers lors du festival Premier Plan. On se sent proche de tes poèmes, parce qu'on est angevin aussi, parce qu'on a emprunté ces rues.
Oui, alors peut-être que tu désignes là quelque chose qui est important, c'est-à-dire que je ne sais pas si je fais de la poésie, je crois que simplement j'ai besoin d'écrire des choses du quotidien, quand des éléments, des événements, c'est un grand mot, des toutes petites choses surviennent, il m'arrive de prendre ma plume ou un petit bout de crayon, ce que j'ai, je ne le note pas. Ça, l'image chemine, mûrit, s'habille de mots, et puis les mots, parfois, imposent un rythme, quelque chose vient, et je rentre et j'écris ça. Et j'étais très embarrassée avec cet ensemble de petits textes qui étaient là, toutes sortes de dates. Et je dois à Naja Begum la réaction de lui. Mais bien sûr, ils doivent aussi entrer dans le cycle des palmiers. C'est lui qui m'a dit, mais oui, ça fait une entrée, on apprend à te connaître, c'est déjà toi. Enfin, toutes ces phrases qui m'ont convaincue qu'effectivement, ils pouvaient trouver place. Et tu me fais découvrir que pour les lecteurs angevins, c'est une occasion de se promener et de se retrouver dans des lieux qu'ils connaissent. Effectivement. Donc c'est très disparate, ça n'a pas grand rapport thématique, mm-hmm. mais ça procède probablement de la même nécessité de laisser trace d'instants, on pourrait dire, merveilleux à leur façon.
Mm-hmm. Oui, je précise que Naja Begum est l'éditeur.
Oui.
Hein, et donc, tu me disais que c'est lui qui a proposé de publier.
Oui, un éditeur très particulier, puisque avant même d'être éditeur, il est de langues multiples, arabe en particulier, il enseigne l'arabe, on le sait, il est poète lui-même, il est calligraphe, et il n'aura échappé à personne que le cycle des palmiers est accompagné de calligraphie, qu'il a eu la gentillesse et la générosité de créer pour ce recueil. Donc voilà le rôle multiforme de cet éditeur un petit peu hors norme.
Est-ce que tu aurais une question pour Nagère ? Tu avais suggéré qu'on pourrait poser quelques questions à Nagère.
Non, plutôt qu'une question, c'est une demande. J'aimerais que, à l'occasion de cette émission, on puisse entendre en arabe les quelques-uns des poèmes que j'ai retenu dans la deuxième partie qui s'appelle donc l'innombrable palmeraie. La deuxième partie. Question, il ne m'en vient pas tout de suite. Peut-être qu'avec le temps, oui. J'aurai idée.
Je voulais parler justement des calligraphies, de la calligraphie du palmier. Les palmes, justement, sont calligraphiées de mots.
Oui.
Et c'est très beau.
Oui, on peut dire que l'inventivité, la volubilité, on pourrait dire, silencieuse du calligraphe m'a absolument éblouie. Dans le recueil, quelques calligraphies ont été retenues. Naja et moi les avons choisies ensemble, mais c'est une petite poignée par rapport à l'abondance d'espèces de moissons extraordinaires. De temps en temps, effectivement, certains textes se retrouvent dans les palmes ou dans le tronc. D'autres fois, n'y sont pas. Elles y figurent dans différents. Le texte figure dans différentes langues, avec un caractère arabe ou latin. Une fois même en caractère cyrillique pour le poème de Lermontov, donc j'étais particulièrement touchée. Donc, c'est la lettre qui règne à ce moment-là, qui règne, c'est pas le mot, qui danse dans ces calligraphies. Voilà, donc il le sait, mais je peux le répéter, je l'en suis infiniment reconnaissante.
Il y a aussi le travail de la répétition par le trait,
oui,
sur la tige du palmier aussi,
oui.
Un tableau rectangulaire avec une répétition de traits, de petits traits.
Ah oui, c'est une particularité. Oui, certaines des calligraphies sont saisissantes par le jeu effectivement très sobre de traits et d'espace blanc. Parfois le tronc est complètement évidé lui-même, comme invisible ou dessiné par les signes à peine graphiques qui sont autour. Oui. Mais ça, il en parlerait mieux que moi.
Tu en parles déjà bien. En fait, ce qui est donné à lire est donné à voir dans la rencontre, le croisement, à voir et à être lu aussi dans les multiples langues, le russe, oui, notamment. Peut-être que tu pourrais nous lire, entre autres,
oui, peut-être
la poésie russe.
Mais ça demande un petit détour, peut-être, parce que c'est autre chose. Ce n'est pas moi qui écris en russe dans cette affaire. Il se trouve que mon intérêt pour le palmier, c'est pas seulement quand je vois des palmiers, mais c'est aussi quand je rencontre, à l'occasion de lectures diverses, quand je rencontre chez un auteur, pas simplement la mention, mais une sorte d'hommage rendu au palmier. Et j'avais pris l'habitude de recopier sur un petit carnet. Voilà. Je recopiais des passages. Et puis, à force de les accumuler, et toujours grâce au dialogue avec Tinja, je m'étais dit, mais ils sont aussi importants que ceux que j'écris. Ils sont même vitalement présents. Et donc, c'est à ce moment-là que le titre m'est venu, qui aurait pu être le titre général du recueil, l'innombrable palmeraie. Innombrable, on entend bien, c'est-à-dire que bien au-delà du petit cycle des palmiers qui rassemble les textes que j'ai écrits, il y a cette circulation d'une sorte de motif, mais ce n'est pas du tout le thème. Et peut-être que ce que j'ai retenu, avec d'ailleurs beaucoup d'émotion, parce qu'à mesure que les textes se découvrent et que d'autres arrivent, il se passe quelque chose d'étrange dans cette harmonie, dans cette convergence de regards, les dommages rendus à cet arbre. Et je pense au texte de Mahmoud Darwish, par exemple. Je voudrais pouvoir le citer par cœur, mais je vais le bafouiller, je vais le dire n'importe comment. Il sera certainement lu à un moment ou un autre. En tout cas, j'ai déjà perdu la question. C'était le détour que je voulais faire. Oui, détour pour dire que les langues sont là parce que ce sont les langues dans lesquelles d'autres ont parlé des palmiers. Et je crois que c'était... Et quand j'ai trouvé, il y a déjà plusieurs années, que Lermontov avait aussi écrit un texte très beau sur le palmier, pas tout à fait le palmier, mais sur les palmes que dans la tradition orthodoxe on met à la place du buis que mettent les chrétiens occidentaux, mais qu'autour de cette petite branche de palme, sa méditation va vers à interroger le palmier dont il est issu. J'ai trouvé ça tellement admirable. Donc, je me suis dit, je recopie Lermontov. Et de fil en aiguille, il y a eu texte russe, texte arabe, parce que je lis Mahmoud Darwish, mais pas en arabe, mais je le lis en français, mais j'ai dit, il faut qu'il soit là. Et puis, j'ai aussi tenu à ce qu'un grand poème, le Cantique des Cantiques, figure aussi, où la figure du palmier revient comme figure de beauté, de féminité. Et donc, tant qu'à faire, il n'y avait pas de raison que le texte ne figure pas dans l'original aussi. Et donc, on a quelques lignes du Cantique des Cantiques en hébreu. Je pense en particulier au poème de Lermontov, qui est dans ce recueil très ancien. Je crois même que c'est le dernier poème. Très bien, l'avant dernier.
Déjà, je peux dire que c'est un beau livre.
C'est un très très beau livre. C'est un livre ancien qui m'a été offert. Je ne sais plus comment on appelle ces dessins qui ornent la lettre initiale. Ça porte un nom.
L'enluminure. C'est pas tout à fait de l'enluminure.
Pas tout à fait de l'enluminure, mais c'est une. Et on voit sur l'enluminure. Regarde. On voit les palmes, la palme en question, on voit l'icône dont il sera question dans le texte, et puis la petite lampe qui est allumée en permanence, donc le petit coin dans les maisons autrefois, et peut-être encore maintenant. Donc je vais lire le texte est donc de Lermontov. Vietka Palestine. Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты жила? Каких холмов, какой долины ты украшением была? У воды чистых Йордана восток луч тебя искал? Ночной ли ветер в горах Ливана тебя сидит и колыхал? Молитву ли тихо читали и пели песни старины, когда листы твои сплетали в Салема бедные сны, и пальма-то оживали поныне, все так же ли манить? Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была, у воды чистых Йордана восток и луч тебя ласкал, ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал.
Petit rameau de Palestine, dis-moi, petit rameau de Palestine, où as-tu grandi? Où as-tu fleuri? De quelle vallée, de quelle colline étais-tu la parure? Au bord des eaux pures du Jourdain, le rayon de l'Orient te caressait-il? Le vent nocturne te secouait-il? En colère dans les monts du Liban?
Je prends la troisième strophe, là où tu t'es arrêté, parce qu'elle me touche particulièrement, celle-ci. Elle introduit celui que le poète appelle les pauvres fils de Soliman, c'est-à-dire On est dans le monde arabe et on va voir qu'est-ce qu'ils leur posent comme question. Quelles questions se posent-ils à propos d'eux ? Récitaient-ils une prière paisible ou chantaient-ils des chants anciens quand ils tressaient des feuilles les pauvres filles de Soliman ? Et l'idée que là-bas on tresse les feuilles de palmier, ça me pétalait évidemment plus que de au cœur. Et puis cette question qui vient après, et ce palmier est-il encore en vie ? Dans la chaleur torride du désert, est-il toujours le passant de sa large tête feuillue ? Ou bien, dans l'adieu sans retour, s'est-il flétri tout comme toi ? Et repose-t-il, poussière assoiffée, sur ses feuilles jaunies ? Donc on a là tout un déploiement de l'univers du poète russe à partir simplement de cette branchette qui est présente dans le petit lieu de... Faut-il l'appeler lieu sacré ? Pas sacré, mais disons le lieu de prière, le lieu de... Voilà, de la croyance. L'innombrable palmeraie s'ouvre presque, pas tout à fait, mais presque, sur un récit de Elias Sambar, dont on apprend que le nom de famille Sambar veut dire palmier précisément. Mm-hmm. Et pour moi, la présence, d'abord j'aime beaucoup Elias Sambar pour l'avoir entendu, lu, et comme traducteur admirable. Et cela suffit que Elias Sambar, palestinien, qui s'est tellement battu pour que justice soit faite, qu'il figure dans cette quête lui-même des siens, et que ça tourne autour de la question du nom, ça me paraît parler suffisamment de soi-même.
Al-Jamilat ou Hunna al-Wahidat, مثل الوصيفات في حضرة الملكة الجميلات هن الطويلات خالات نخر السماء
Les belles sont les solitaires comme les dauphines en présence de la reine Les belles sont les grandes tantes des palmiers célestes
ولكن أسلوبنا في عبور الشوارع من زمن نحو آخر كان يثير التساؤل من هؤلاء الذين إذا شاهدوا نخلة وقفوا صامتين وخروا على ظلها ساجدين
Mais notre façon de traverser les rues d'un temps à un autre soulevait les interrogations. Qui sont-ils ceux-là qui, s'ils aperçoivent un palmier, s'immobilisent, silencieux, puis se prosternent dans son ombre ?
Palmyre. Tu m'as dit de ta ville la beauté. Tu me l'as dessinée avec ses murs blancs, ses fontaines, ses enfants. Sur un mur, tu as écrit son nom. Tout à coup, tu as eu l'air rêveur. Les filles jouaient aux osselets en plein soleil, et si vite. En plein soleil, elles lancent les osselets tous ensemble, les reprennent un à un, rient, recommencent, si lentement, si vite. Et moi, debout, je m'exerce, sans bouger, sans les quitter des yeux. D'un geste, tu lances, tu saisis, tu reprends. D'un geste, tu lances, saisis, reprends, lance, saisis, reprends. Elles ne me voient pas, elles sont dans les rires. Et puis, d'une autre voix, tu dis, dans l'ombre, tout contre le mur, il y a une autre fille, pas d'ici. Doucement, elle sépare en deux la tige d'une palme le long de sa préliure. Je crois, dis-tu, qu'elle va tresser une natte pour la poupée qu'elle voit en songe. Instant. Groupée, serrée, balancée. jusqu'à soudain l'arrêt de la camionnette. Un à un, les jardiniers les convoient sur une petite brouette à moteur et les placent en sentinelle de l'été, chacun à son poste. Et le mail sourit du délicat protocole, mais plus encore de la geste lente, indéchiffrable des palmes. Mai 2005. À la fontaine, en plein soleil, elle finit d'appliquer son vernis. Maintenant, elle écarte les doigts et regarde. 10 gouttes d'eau diamantine retombées de là-haut, ou 6 perles de rosée. Le mail, juin 2010. En haut de la rue des Deux Haies, ça défile, ça trottine et ça jase. N'essaye pas de comprendre, elles n'ont pas le temps de même te voir. Les accompagnatrices seules croisent ton sourire. Ce soir, dans leur robe légère, toute fraîche, toute vive, elles vont raconter en cascade, en reprenant bruyamment leur souffle, les péripéties du film qu'on les a emmenées voir. Les 400 coups, juin 2010. Irrigation. Vous voilà revenus, descendant du Dadès qui peuplait la vallée. Et voilà le village enveloppé de sable et le gardien de l'eau qui nous attend. Il va le premier dans la lumière et l'ombre haute, ouvrant, fermant les vannes, examinant les troncs, tâtant du pied l'humidité. Il n'aura jamais fini peut-être, mais voilà qu'il s'arrête, se retourne, attend. Et soudain, comme il chanterait, il annonce et nomme l'une après l'autre, selon leur variété, toutes les dates. Les joyaux inconnus d'une fête très lointaine irriguent à plein poumon l'innombrable palmeraie.
Note andalouse. L'aube tarde, hésitant aux paupières des chevaux assoupis au désert. Flanqués d'azur, ils se laveront, mais l'aube tarde dans la rutilance des harnachements de cuir jetés là, comme montagne de monture. L'arche ouverte me fut désignée par un flamboiement d'éblouissant bleu, sorti d'orange papillaire. Puis ce fut un collier comme de buée, brodé à la frange des pierres, le ciel par transparence y scintillait. Ah, parcelle soyeuse de ciel assemblé, sur le seuil j'attendrai. Midi, midi qui nous dit mou, reconnaissant heure au sommeil des jardins, à la lenteur de l'eau. Midi damassé au blason de Byzance et l'ombre à l'abri dans l'albâtre des lettres. Midi d'alliance, le cadran déserté. Midi fait don de la distance.
La brume se lève. La brume se lève. D'où vient ce tintamarre? Un troupeau? Un chant d'oiseau? Le murmure des palmes, même le Nil l'ignore. La récolte des fèves requérait des mains, les enfants accouraient. Pour le coton lointain, elle quittait son jardin sans se retourner. Le potier avec la terre devisait seul désormais. Ah, leur offrir un bol pain. Pour toi je chanterai, pour toi je cueillerai tous les fruits du verger. Viens, remontons le torrent, Proserpine attendra.
Carthage, Carthage, ville en ruine, je te croyais déserte. Le chemin qui monte à Birsa est raide, aride, broussaille, un figuier de palmier. Je venais voir l'immensité de la colline rasée. Une porte s'est ouverte sur le seuil d'une bergerie, Une fillette apparue, elle fait signe de la suivre. Elle va sans mot, agile, juste parfois se retourne. Je la suis. Elle porte au poignet des bracelets de petites perles en pâte de verre qui ressemblent